VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, environ 200 policiers ont manifesté à Ouagadougou pour dénoncer une gestion opaque des contrats de la sécurité qu'ils assurent pour des sociétés privées. C'est ce qu'a constaté un journaliste de l'AFP. Rassemblés devant le camp de la Compagnie républicaine de sécurité hier mardi, les policiers en tenue et sans armes ont exigé la publication des contrats authentiques des prestations de services payées et le limogeage du directeur général de la police nationale. Au Niger, remplacement du ministre de l'Enseignement supérieur, Mohamed Ben Omar, dont le départ était posé comme préalable par les étudiants, à tout dialogue avec les autorités. Selon un décret signé par le président Mahamadou Issoufou, Mohamed Ben Omar et le ministre de l'Emploi et du Travail, Yaouza Sadissou, échangent leur portefeuille ministériel. Les étudiants, dont quatre leaders arrêtés, ont été libérés mardi, avaient lancé le 10 avril un important mouvement de protestation qui a conduit à des affrontements avec les forces de sécurité et la fermeture pendant plusieurs jours du campus de l'université de Niamey. Un étudiant est décédé lors des désordres dans des conditions qui restent encore à déterminer. Niger toujours, libération de Mekoul Zodi, coordinateur de la campagne Tournons la page Niger, après deux semaines de détention. Monsieur Zodi était poursuivi pour concussion, mais la justice a estimé les faits non constitués. Solange Niamoulissa a joint Issa Garba, secrétaire à l'information de la campagne Tournons la page internationale Niger.
Effectivement, nous vous confirmons que Mekoul Zodi est relâché depuis ce matin par le juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, qui a délibéré en disant que vraiment les faits qui sont retenus contre Mekoul Zodi ne sont pas constitués. Donc par conséquent, il est relâché et libre de ses mouvements et il peut continuer ses activités sans se soucier encore de la même poursuite qui a été engagée contre lui cette semaine.
Issa Garba, secrétaire à l'information de la campagne Tournons la page internationale Niger. Afrique centrale maintenant, au Cameroun, 3 morts, 1 gendarme et 2 civils et 4 blessés. Tel est le bilan d'un attentat suicide perpétré ce mercredi à Kolofata, dans l'extrême nord du pays. Selon un responsable du comité de vigilance de la ville, l'attaque a été menée à 10h heure locale, 9h temps universel, par un kamikaze venu du Nigeria voisin. Kolofata a été souvent la cible des islamistes nigériens de Boko Haram. En juillet 2014, une colonne de plus de 100 combattants du groupe djihadiste avait attaqué la ville et enlevé l'épouse d'un vice-premier ministre camerounais, Amadou Ali, ainsi que 16 autres personnes, dont un notable. Madame Ali avait été libérée 3 mois après avec 26 autres otages enlevés sur le territoire camerounais en mai et juillet 2014, dont des ressortissants chinois. En Guinée équatoriale voisine, 2 militants des droits de l'homme en détention au commissariat central de Malabo, surnommé localement Guantanamo, depuis leur arrestation lundi. Plus de détails avec Tatiana Mosso.
Alfredo Okembe et Enrique Assoumou du Centre d'éducation et d'initiative pour le développement de la Guinée équatoriale sont détenus sur ordre du ministre de la Sécurité au commissariat central de Malabo. Le vice-président de l'ONG, Mariano Ngokomba, rappelle que la durée légale de la garde à vue est de 72 heures. L'ONG se dit aussi inquiète de la possible arrestation d'autres membres et demande la libération immédiate des 2 défenseurs des droits de l'homme. Le gouvernement leur reproche d'avoir célébré les 20 ans de l'association les 14 et 15 avril à Malabo, alors que les activités de l'ONG ont été suspendues en mars 2016. La Guinée équatoriale est dirigée depuis 1979 d'une main de fer par Théodoro Obiang Nguema. Il a été réélu avec près de 94% des suffrages à la présidentielle du 24 avril 2016.
En Zambie, le chef de l'opposition Hakainde Hichilema doit de nouveau être entendu par la justice ce mercredi à Lusaka. Incarcéré pour avoir tenté de bloquer le convoi présidentiel, il avait dénoncé à sa première comparution hier le comportement criminel de la police lors de son arrestation. Anastasie Toudjèche.
Le dirigeant du Parti Uni pour le Développement National répondait devant un tribunal de Lusaka des accusations d'insultes et refus d'obtempérer à une injonction de la police. « Avec ma famille, nous avons été attaqués par des criminels en tenue de policiers qui nous ont gazés pendant 15 heures », a dénoncé M. Hichilema à la barre. Il est également poursuivi pour trahison. Les autorités lui reprochent d'avoir gêné au début du mois le passage du convoi du président Edgar Lungu dans l'ouest du pays. HH, comme on le surnomme, a été interpellé le 11 avril au petit matin dans sa résidence par les forces de l'ordre au terme d'une nuit de siège. Au terme de la première comparution, le juge Greenwell Malumani l'a autorisé à voir le médecin de son choix dans sa cellule et à recevoir la visite de ses proches et celle de ses avocats.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Comment accroître le nombre de scientifiques en Afrique et partant permettre à de nombreux jeunes d'améliorer leurs connaissances dans le domaine des sciences? De nombreuses organisations tentent de répondre à ces préoccupations à travers des formations appropriées. C'est le cas de l'Institut panafricain des sciences mathématiques Next Einstein Initiative, dont la vision est de transformer le continent africain en donnant la chance aux étudiants d'être des penseurs. Pour en parler, John Lindon a joint à Kigali Roméo Issou, directeur des bourses au Next Einstein Initiative.
L'Institut panafricain des sciences mathématiques, en abrégé EIMS en anglais, est une initiative qui a vu le jour en 2003 en Afrique du Sud pour mettre sur orbite le continent africain dans le développement des sciences, notamment en mettant en place des centres d'excellence où sont formés les plus brillants étudiants du continent en sciences mathématiques. Quand je dis sciences mathématiques, j'entends évidemment les mathématiques, mais aussi la biologie, les sciences physiques et les sciences statistiques, tout ce qui est du ressort des sciences et qui fait intervenir les mathématiques. Et puis, nous avons identifié que ce serait intéressant pour le continent de former une masse critique de jeunes scientifiques qui réfléchissent aux problèmes, aux défis majeurs du continent et qui apportent des solutions adaptées aux réalités de l'Afrique.
Comment est-ce que vous sélectionnez les étudiants ou les élèves qui doivent intégrer votre centre?
Les étudiants sont sélectionnés sur la base d'un ensemble de critères rigoureux qui tiennent compte de leur excellence. Déjà, parce qu'il faut qu'ils aient le niveau licence minimum, donc des étudiants qui sont sortis majeurs de leur promotion. Et le deuxième critère, c'est que nous regardons parmi ces étudiants-là, ceux qui n'ont pas la possibilité de s'offrir des études d'un certain standing. Parce que ce que nous voulons, c'est de promouvoir les meilleurs cerveaux africains. Et par conséquent, nous faisons en sorte de donner l'opportunité à ceux qui sortent des milieux défavorisés pour accéder à ces initiatives. Et le troisième critère que nous mettons en place, c'est de nous assurer que les étudiants qui seront sélectionnés vont pouvoir donner en retour à l'Afrique ce qu'ils auront reçu des centres d'excellence de EMS.
Aujourd'hui, beaucoup de parents font face à un défi, c'est celui soit de faire en sorte que leurs enfants fassent des études littéraires ou alors des études scientifiques. Qu'est-ce que vous conseilleriez à ces parents-là?
Ce que je recommanderais plus, c'est que les parents mettent l'accent sur l'orientation de leurs enfants dans les études scientifiques, notamment les filles, parce que le continent en a grandement besoin. Nous avons un nombre encore très infime de scientifiques à l'échelle du continent. Nous contribuons dans une proportion extrêmement réduite à l'échelle globale. Et donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique de scientifiques sur le continent qui réfléchissent aux problèmes auxquels nous sommes confrontés.
Roméo Issou, directeur des bourses au Next Einstein Initiative à Kigali, au Rwanda. Actualité américaine maintenant, le président Donald Trump a signé mardi un décret censé inciter les entreprises à acheter américains et embaucher américains, en changeant notamment un programme de visa temporaire utilisé pour recruter des travailleurs étrangers hautement qualifiés. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Ce décret, signé à l'occasion d'une visite au siège de Snap-on, un fabricant d'outils du Wisconsin, matérialise le mot d'ordre « America First », l'Amérique d'abord, sous lequel M. Trump a placé sa présidence dès son discours d'investiture le 20 janvier dernier. Ce nouvel executive order réclame aussi que les départements d'État, du travail, de la justice et de la sécurité intérieure renforcent les mesures contre la fraude et les abus dans le système migratoire pour protéger les employés américains. Les quatre départements devront proposer des réformes du programme de visa H1B afin de garantir que ces laissez-passer ne soient octroyés qu'aux plus qualifiés et aux mieux payés des travailleurs étrangers. Les visas H1B sont destinés aux étrangers dans des métiers spécialisés requérant des diplômes de l'enseignement supérieur. Ils concernent notamment des scientifiques, des ingénieurs et des programmeurs informatiques. Mais certains estiment que les entreprises utilisent ces documents de séjour pour employer des travailleurs étrangers à des postes technologiques sur le baptême pour des salaires moindres.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.